Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 153. Mon nom est Paul Landriau et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Donc, mes amis, pour en finir une bonne fois pour toutes, puis pas en parler pendant un autre 11 mois, au minimum, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la soirée des Oscars de cette année? Est-ce que vous avez aimé la soirée déjà, en dehors des prix? Là? Est-ce que la soirée vous a plu?
En dehors du bug final, en dehors de la grosse...
Mais ça fait de la bonne télé, là. Tu sais, c'est un peu...
Vraiment.
Tu sais, dans le sens... Oui, ça crée un remous, puis c'est sûr, c'est une grosse... Tu sais, c'est une tempête, là. Là, on parle évidemment du mix-up là, de Best Picture, là, pour ceux qui vivraient sur une autre planète, là. Mais évidemment que c'est sûr que la chose, c'est que Barry Jenkins et son équipe, ils n'ont pas eu le temps de faire peut-être le discours qu'ils auraient voulu faire, évidemment. Sauf que je pense qu'il l'a publié, là, tu sais, aussi, là, il y a comme... j'ai vu ça passer, je t'avoue que j'ai pas regardé exactement, là, mais tu sais, je sais qu'il y a quand même eu la chance de s'exprimer, pas de la façon qu'il aurait peut-être voulu, mais en même temps, tu sais, quand même. Puis, au final, c'est ça. Donc, Moonlight, Best Picture, je pense que c'est vraiment un argument de taille, tu sais, d'un certain changement, là, tu sais, puis ça représentait ça aussi. D'ailleurs, tu sais, on dit surprise, mais je pense Rémi et moi, hein, sur notre pool, tous les deux, on avait mis Moonlight.
J'étais pas mal sûr, en fait. Pas mal sûr, mettons que La La Land avait des grosses chances, là, mais tu sais, quand on a vu La La Land arriver, c'était comme, bon, ben, OK, c'est ça, puis... Finalement, quand Moonlight, c'était comme obviously, me semble.
C'était drôle parce que moi, je l'ai vécu d'une double façon en plus parce que je pense que Rémi et moi, on avait autant de points sur notre pool.
Oui, exact.
Puis il y avait Sophie, là, La La Land dénommée. Fait que là, Sophie, Rémi et moi, on avait autant de points sur notre pool. Là, Sophie, elle remporte avec La La Land. Puis là, genre, ah, nope, finalement, c'est Moonlight. Puis là, ah, oh, Rémi et moi, ex aequo, on remporte.
Je suis en train de ramasser mes trucs. En plus, moi, j'allais m'en aller, tu sais. Puis là, tout à l'écran, il y a de quoi qui se passe. C'était comme le chaos. C'était bien spécial, mais parce que le show, on va se le dire, c'était plate en maudit, là. Il y a eu des moments longs, l'affaire avec les touristes, puis les petits paquets qui tombent du ciel à trois reprises dans soirée. C'était pas un super show, là, mais ça a fait le show. C'était un gros moment de télé.
Non, c'est ça. Puis parmi les films qui ont remporté, il y en a tout le temps qu'on est pas d'accord. Ça, c'est la vie. T'sais. Je te dirais, pour moi, le plus choquant, c'est meilleur montage Hacksaw Ridge. Là, je veux dire, ce film-là, je peux bien en parler là, si vous voulez que j'en parle, mais c'est vraiment... C'est du sous Spielberg Bible Belt approved, obsédé par le gore, là. C'est vraiment... Tu sais, qui gagne un Oscar dans le son, par exemple, ça c'est très correct. Je veux dire, l'enrobage est vraiment, vraiment, vraiment bien fait, mais tu sais, il y a tellement pas de vision, puis le montage un peu témoigne de ça. C'est un film qui est tellement conçu un peu en laboratoire, là, fait de façon tellement générique. Puis je suis comme, meilleur montage, t'sais, pour vrai, t'sais, Arrival, qui a une approche quand même vraiment créative au montage. T'sais, moi, j'ai eu des petits bémols avec Arrival en général, mais je veux dire, au niveau du montage, il me semble que s'il y en avait un qui méritait bien, moi, je trouve que c'est probablement lui ou d'autres. Là, je veux dire, n'importe quel autre était plus méritant.
Axelridge, je l'ai pas vu, mais des films de guerre, c'est pas plus créatif, justement. Il n'y a pas une écriture qui se fait au montage pour un film de guerre, comparativement, mettons, à un La La Land, où c'est très prédécoupé, puis il y a pas comme un craft de plus quand tu fais du montage pour un film de guerre. Mettons, avec ton expérience d'avoir vu le film, là, vu que...
Non, ben, je comprends ce que tu veux dire, tu sais. Mais en fait, c'est que ça normalise. Le montage, je trouvais, avait vraiment pas partout. Tu sais, avait pas de personnalité. Tu sais, c'était vraiment genre ça coupait quand ça devait couper pour, tu sais, pour avoir un rythme, tu sais, qu'on s'attend là. Je sais pas. Tu sais, c'est très normalisateur.
Un montage plus fonctionnel que vraiment créatif.
Normalisateur, là, tu sais. Donc, oui, a priori, ça se peut, comme tu dis, Rémi, tu sais, qu'effectivement, je sais pas, l'adrénaline des scènes de guerre soit un peu rehaussée par le montage. Moi, ça l'a pas fait, là, pour moi. Mais bon, bref, peu importe, là, tu sais, ça reste meilleur montage. Là. C'est pas non plus une catégorie, tu sais, qu'on devrait...
Oh boy. Non,
mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais tu sais, je veux dire, c'est drôle que comme si j'ai un award un peu à... à revendiquer, t'sais, ce soit pour le montage, t'sais, non Best Picture. Ouais, là, je patine un peu, mais c'est super important le montage, Chris, je sais. Mais je t'avoue, j'ai un peu peur. Parce que traditionnellement, quand les films gagnent meilleur montage, t'sais, c'est quand même un gros seal of approval pour t'sais, Best Picture. Hein. Il y a beaucoup de films qui gagnent les deux, puis là, j'étais comme, hey, non, pour vrai. Genre, est-ce que c'est un mauvais présage de choses à venir? Mais non, quand même. Donc, puis Zootopia, meilleur film d'animation. Ça, le meilleur film d'animation, on dirait que c'est toujours la catégorie qui manque de créativité. C'est comme Disney, Pixar ou Pixar Disney. Là, tu sais, c'est à un moment donné, tu sais, Zootopia, c'est bien, là. C'est pas mauvais, là. Mais je veux dire.
Non, c'est pas mal, mais c'est qu'à côté de ça, t'as Laika qui travaille tellement fort depuis des années à faire des super films d'animation stop motion. Je sens que c'était comme leur année. Le Kubo, c'est un super bon film qui est mieux écrit qu'un Paranorman, parce que Paranorman, c'était très bon, là. Ouais, Coraline, pour moi, c'était comme pas mal leur meilleur top, mais tu sais, cette année, Kubo, c'était vraiment impressionnant, là. C'est vraiment, vraiment beau, l'animation. Puis, c'est une super belle histoire. Probablement une meilleure histoire que Zootopie, même si Zootopie, c'est pas mal, là. C'est correct, mais c'est ça, là. Ben, je sais pas, ça aurait dû être un peu plus ballsy comme choix, là.
Ben non, peut-être, mais tu sais, puis aussi, il y avait Ma vie de courgette, là. Je veux
dire, ouais. Ouais, mais ça, c'était sûr qu'il gagnait pas, tu sais. C'est plate, là, d'en dire, mais je m'attendais un peu à ce qu'il gagne pas, tu sais.
On dit ça, mais veux-tu, Moonlight, il y a un an, c'était sûr qu'il gagnait pas, tu sais. Fait que si c'était une année où il y a des paradigmes qui changent, puis qu'il y a des choix osés. C'est comme, il y en a eu un, oui, effectivement, tu sais, pour meilleur film. Fait que c'est évidemment le plus porteur quand même de message, mais ailleurs, il y a quand même des choix tristement conservateurs. Puis moi, je trouve que le film d'animation, ce serait la prochaine petite révolution, là, hein, les Oscars, là, ça serait ça, tu sais. Mais bon, fait que...
Mais sinon, on va se le dire, là, le moment Sylvain Belmar, c'était un moment Super Bowl. Oui. Ça, c'était vraiment hot, tu sais, on l'a regardé en gang, on était quoi, 8-9 à regarder ensemble les Oscars. Puis quand il a gagné, c'était comme... C'était vraiment... Tu sais, c'est parce nous autres, c'est un peu notre événement sportif de l'année, là, les Oscars. On est en gang, puis on bouffe, puis on check ça, puis c'est comme... C'est super festif. Puis tu sais, quand lui, c'était comme le point du match, là. Tout le monde crie en même temps, puis là, on se fait dire... Il y a des voisins qui essaient de dormir, là. Mais tu sais, c'était festif. C'était vraiment un beau moment, ça. Salut non, Montréal, coucou Denis. Là, Denis, t'es où, en fait, là?
Ouais, puis en plus, c'est que, tu sais, un Oscar comme ça, ça va tellement donner une belle visibilité à nos équipes techniques au Québec, là. Donc, ça n'a pas de prix, en fait, ça se quantifie pas réellement. Moi, c'est ça, j'ai toujours trouvé que les Oscars, bon, faut en prendre puis en laisser, là. Mais je suis quand même content qu'un film comme Moonlight gagne le meilleur film parce que, tu sais, il y a plus besoin, disons, de publicité puis que peut-être les gens prennent un risque que La La Land, qui est déjà un grand succès en salle. Puis, donc, juste pour ça, c'est vraiment le fun pour ce que Moonlight représente.
Moonlight represents. Non,
mais je veux dire, tu sais.
Oui.
Puis l'autre chose aussi, je trouvais ça tellement drôle là, parce que il y a Suicide Squad qui a gagné le score du. C'est Most Makeup, c'est ça?
C'était genre le deuxième de la soirée, là. Ouais. J'avais mis en plus dans mon pool, puis c'était un peu comme genre, je l'ai mis un peu en riant, là. Puis genre, là, Suicide Squad gagne, puis là, genre, ça prend pas comme 5 minutes que l'Internet vire fou, là, genre, Academy Award winner Suicide Squad.
Puis en fait, c'est puis la blague là, que je disais c'est à ma copine, c'était comme, sûrement que, tu sais, ils ont mélangé Best Makeup puis Most Makeup. Puis la plupart des catégories, tu sais, tu peux faire ça, tu sais, genre Most Editing, puis Most Costume, tout ça. Puis il y a quelqu'un, j'ai vu, tu sais, le site Letterboxd, qui est un peu comme IMDb, là, qu'on peut faire une espèce de journal de films, faire des listes, des classements, tout ça. Puis il y avait quelqu'un qui a fait une liste, là, cette soirée-là, qui disait, genre, liste de films qui ont moins de scores que Suicide Squad. Puis là, c'était comme la liste de grands classiques du cinéma qui en finit plus, là.
Mais bon. C'est ça. Donc, il y a eu la joke, c'est l'année d'avant Scorsese, là, c'était avec Hustle and Flow. Tu sais, c'était genre la toune de 36 Mafia, là, qui avait gagné l'Oscar, puis je m'appelle plus c'était qui le présentateur à cette année-là, mais il a comme fait genre, for the record, 36 Mafia 1, Martin Scorsese 0. C'était comme tellement bon. Tu sais, fait que c'est sûr, là.
Donc, c'est les Oscars. On est bien content que ça soit réglé.
Ouais, mais non, juste mais... même. Non, mais absolument. Puis je veux juste finir avec un peu une pensée du jour. J'ai partagé un truc sur mon Facebook. Puis je pense que ça représentait quand même quelque chose qui est un peu ma mentalité rendue là. Parce qu'il y a vraiment. Tu sais, c'est ad nauseam comment qu'on parle des films. Puis si bien que les films deviennent. Tu sais, on les suit pas entre septembre puis février, puis genre vraiment à se faire taper sa tête avec, on dirait qu'il existe juste un film ou deux films ou trois films à tout le plus. Puis genre vraiment, il y avait eu, je pense, un critique de, je m'appelle plus où, mais qui avait fait de façon vraiment éloquente juste un genre de petite montée de lait par rapport à ça. Puis c'est comme, si seulement on pouvait se passer de tout ce qui mène aux Oscars, de tout le, à quel point que finalement ça devient une genre de course de cheval un peu arbitraire, puis tu sais que c'est même plus à propos de la qualité des films, ça devient à propos de son petit favori, puis à quel point que genre c'est un peu mon film contre les autres, puis on arrive avec des opinions vraiment radicalisées sur les films, puis là c'est comme on crée de l'outrage autour des films alors que tu sais il y a pas nécessairement d'outrage à avoir, tu sais, sur ce
genre la laine, genre
non mais ouais. C'est ça, c'est juste, c'est trop long, c'est vraiment marathonien, c'est comme
c'est ça, parce que c'est pas les Oscars le problème en tant que tel, c'est ça, c'est tout ce qui gravite autour, comme tu l'as dit. Parce que tu sais, ici au Québec, mettons, là, le gala des prix du cinéma québécois qui s'appelle maintenant les Iris, on n'a pas cette culture-là au Québec, donc on n'est pas tanné des films québécois. T'sais, c'est pas, mettons, Team juste la fin du monde versus Team c'est avant ça. Les rues ou tout ça.
C'est ça, super binaire, versus là, comme en affrontement. Non, exactement. Puis tu sais, juste mettons, juste quand on regarde les Golden Globes, qui est un mois et demi avant, on a l'impression déjà qu'on est un peu moins blasé. Puis souvent, le backlash, le gros backlash, il part après les Golden Globes, par exemple, tu sais. Puis c'est ça, on dirait qu'on n'a plus... Il y a comme deux, trois mois trop long, là, tu sais. C'est une couple de shows de télé trop long, là, avant d'arriver aux Oscars, c'est sûr, parce que, c'est ça, on arrive là, puis c'est comme, bon, on peut enfin tourner la page. Vous trouvez pas qu'on a un peu ce sentiment-là, comme quand c'est fini, on est enfin, genre, ouf, tu sais.
Ah, clairement. Puis tellement que maintenant, la saison de cinéma, puis là, je parle vraiment du cinéma hollywoodien, là, mais cinéma américain en général, là, c'est comme presque divisé en deux saisons maintenant. La saison estivale là, qui commence quasiment en mars de nos jours, ou en avril du moins, là, qui se poursuit jusqu'en septembre. Ça, c'est tous les gros blockbusters, puis les films de super-héros, puis à gros budget. Puis, tu sais, on a des très bons là-dedans le lot. Ensuite, septembre à, genre, décembre, c'est tous les films qui veulent se qualifier pour les Oscars. Et ensuite, comme décembre à mars, ben, c'est ces films-là qui restent à l'affiche. Tu fais juste comme les rattraper, puis en parler encore et encore et encore.
C'est
devenu très binaire. C'est soit on est en mode, tu sais, super-héros, soit on est en mode film prestigieux, historique, là. Ouais. Donc, c'est ça, c'est juste, ça devient comme... C'est ça, c'est tout ce qui entoure les Oscars, vraiment, contre lequel moi aussi, tu sais, je m'élève un peu. Puis, en tant que tel, tu sais, les Oscars, c'est sûr que toutes les équipes qui ont reçu des Oscars, pour eux, ça change des vies, fait que... C'est ça, c'est génial, là. Mais c'est juste c'est ça, tout le discours environnant, surtout quand on est dans un peu le milieu, quand on suit les nouvelles, même juste un simple cinéphile qui sont peut-être abonnés ou qui suivent des sites web de critiques puis de nouvelles, tout ça, on devient saturé, donc c'est juste ça le problème. Autre nouvelle, je me rappelle plus si je l'avais dit au podcast, mais rapidement en fait, c'est que j'ai eu le plaisir pour la revue 24 images, le numéro 181 qui vient de sortir, de collaborer deux textes en fait. Donc il y a une entrevue avec Nadav Lapide, ainsi qu'un tout petit encart sur un film japonais que j'adore, qui s'appelle Welcome Back, Mr. McDonald.
C'est vraiment bon.
Super bon. Donc, bref, tout ça pour dire que je suis très, très fier et ça me rend très humble, en fait, de faire partie de la grande famille 24 images, que j'espère pouvoir collaborer de manière semi-régulière. Et puis, j'encourage les gens à se procurer la revue et aussi à visiter le site web, etc. Une grosse nouvelle de cinéma que je voulais vous jaser, les gars, puis avoir votre opinion, parce que c'est un projet qui m'excite vraiment beaucoup, en fait, et j'espère que le projet va un peu remplir toutes les promesses qu'il met de l'avant. C'est le retour du cinéma de minuit au cinéma du parc.
Ah ouais? Ça commence pas.
Ben oui, ça a commencé en fait avec une nouvelle, donc vraiment une section parallèle. Ils ont même ouvert une page Facebook uniquement pour cette section-là. Donc, toutes les fins de semaine, c'est un nouveau film à l'affiche qui va jouer... En fait, bon, déjà là, j'ai un petit bémol parce qu'il commence le film à 11h30 et pas à minuit. Ce que je trouve un peu comme un sacrilège. Mais bon, là, on est dans le détail.
Ouais.
Mais c'est surtout que ça va être tourné vers un certain style de cinéma, évidemment. Donc, le premier film, c'est en fin de semaine. C'est avec la version black and chrome de Mad Max, donc la
Ah,
version noir et blanc et sans dialogue, qui est donc inédite en salle à Montréal, qu'on peut trouver sur le Blu-ray. Ils ont déjà une programmation pour les prochaines semaines. Il va y avoir Trainspotting 2, il va y avoir des vieux films aussi. Donc, toute une espèce de c'est ça, une identité à cette section-là qui va se créer. Moi, je trouve ça franchement alléchant. Puis, je me demandais, vous, ce que vous en pensiez, les gars, puis si vous aviez peut-être l'intention d'y aller, ou si le cinéma de minuit, ça vous allume ou pas du tout.
ben, je pense que moi, c'est assez clair que c'est mon genre de cinéma, là. C'est
Oh
comme,
yeah.
si c'est un peu un genre de fantasia aussi qui se poursuit à l'année, là, dans le sens que c'est souvent les projections les plus festives. Si les gens entrent un peu dans ce mode-là, parce que les projections de minuit, on sait que c'est un type de cinéma qui est là depuis les années 70, puis c'est des films toujours étranges, obscurs, le Rocky Horror Picture Show, entre autres, qui est comme probablement le plus populaire, ou un
Ouais,
Eraserhead, ou
Eraserhead,
c'est
là,
des
c'est
films
ça.
vraiment décalés qui sont là-dedans, puis ça attire un certain genre de public. Tu peux pas être contre ça, là, je pense que
Non, c'est
tu peux
ça.
juste pas être
Non,
contre, là, c'est
j'ai pas d'opinion
mais
plus que ça, moi non plus. C'est vraiment cool, ouais.
ouais, c'est ça, mais j'espère que ça va être bien marketé parce que c'est assez particulier de niche comme truc. Faut que tu ailles chercher le bon public pour ça, puis c'est ça, là, c'est pas le marketeur, monsieur, madame, tout le monde, ça va être en allant vraiment dans des milieux Fantasia, Space, en le marketant dans des festivals de genre, puis c'est ça, on allait chercher des cinéphiles un peu décalés, là.
Mais je pense à un public aussi qui peut devenir possiblement beaucoup plus fidèle que Monsieur, Madame, tout le monde, t'sais, même si ça rejoint pas un aussi gros bassin. Autre chose aussi, c'est que j'ai l'impression qu'ils vont créer une affiche unique pour chaque fin de semaine. En fait, comme là, il y a une affiche, t'sais, uniquement pour le cinéma du parc de la version Black and Crown de Mad Max, faite par un artiste local. Donc ça, c'est le genre de truc qui, tu sais, ça redonne l'événementiel, en fait,
Ouais,
au
exact.
cinéma. Et ça s'inspire beaucoup aussi, je pense, de la popularité des projections au Bar Le Ritz. Je sais pas si vous avez déjà un peu été au Bar Le Ritz dernièrement. Ils font des projections là, en 35 mm, de vraiment des grands films. Puis c'est un peu dans le même style, là, tu sais, cinéma un peu des fois peut-être culte. C'est clair que comme le Bar Le Ritz, c'est la nouvelle programmation du Meunier au parc. Je trouve que c'est vraiment une initiative comme franchement excitante, puis pour le futur de la cinéphilie à Montréal. Puis, tu sais, parce que souvent on est morose, puis on souligne beaucoup les événements. C'est comme quand l'excentrisme se fermait, on disait, tu sais, ah, c'est-tu comme un clou dans le cercueil, puis est-ce que ça veut dire que c'est plus possible à Montréal d'avoir, tu sais,
Non, c'est ça.
un bassin cinéphile? Mais avec ce type d'événement-là, puis de projection, je pense que ça prouve aussi qu'il y a un certain marché, qu'il y a une certaine demande. Donc, sinon, un autre exemple aussi, c'était le film The Room qui joue au cinéma de l'art depuis comme des années là, maintenant, là, comme une fois par mois ou je sais pas quoi. Puis ça, c'est le genre de truc que je trouve ça vraiment cool. Puis comme, j'imagine que s'ils continuent à le faire jouer, c'est parce qu'il y a un public qui vient puis qui revient le voir. Puis,
Bah oui, bah oui.
donc, ça, c'est ouais, des belles initiatives. On est très contents. Sinon, l'autre gros événement cinéma au Québec, du moins, outre les Oscars, c'était les RVCQ qui
Ouais.
sont conclus donc ce samedi 4 mars. Pascal, toi, t'avais un film qui jouait?
Oui, j'avais un court-métrage, ouais, c'est ça. Ça a super bien été. Il a joué le 23, comme au début du festival. On dirait que ça fait déjà un certain temps. Puis, c'est ça. En fait, c'est un film qui fait rire. Puis, c'est vraiment agréable de le présenter parce que, comme les gens réagissent de façon très, très intuitive au film, puis la réaction dans la salle a été très bonne. Puis, c'était une projection de court-métrage presque remplie. Ça, c'est cool. Parce que, tu sais, au RVCQ, il y en a beaucoup des projections de court-métrage. Ils sont tard des fois. Fait que, tu sais, je sais que par le passé, quand j'avais des films qui jouaient là, par exemple, c'était pas toujours des salles très, t'sais, bien, bien, bien fournies. Cette soirée-là, ça a bien à donner. Donc là, il y avait beaucoup de public le présent. C'était vraiment agréable. Puis, il y avait en fait, c'est un très bon programme. Je suis allé aussi voir le film L'air de vent que ma copine a produit, un court-métrage que ma copine a produit sur lequel j'ai fait de leçon. Puis ça aussi, en fait, c'est une autre projection de court-métrage où il y avait beaucoup de gens. Donc, les deux projos de short que je suis allé voir, c'était très en santé au niveau du public. Puis, des beaux programmes. Ça aussi, des fois, ça peut être un peu up and down parce qu'ils en prennent quand même un certain nombre. C'est très bien, mais donc, je pense que statistiquement, ben, par la force des choses. Et de toute façon, n'importe quel programme de court-métrage, on en ressort. Moi, j'en ressors tout le temps un peu, c'est un peu en montagne, en dents de scie. Là, tu sais, il y en a qu'on adore plus que d'autres, puis il y en a qui nous laissent plus froid. Mais les deux programmes cette année, vraiment chapeau, en fait, c'est deux très bons programmes de short. Donc, ouais.
T'as-tu un coup de cœur à souligner? Je sais que tu me parlais du film d'animation de Théodore Huchev.
Entre autres, oui, ça c'était beau de le voir en salle. En plus, c'est ça, il était disponible quelques jours là, sur la plateforme de l'ONF. Là, maintenant, je crois qu'il a été remis...
dans la voûte.
Caché dans la voûte. Mais si vous ne l'avez pas vu, ouais, Vaishal Aveugle, qui était nommé aux Oscars, c'est un superbe film. Puis je sais pas, il y a quelque chose de... Il y a une dimension épique un peu. Il y a du spectacle, beaucoup de musique aussi. Puis quelque chose de grandiose. C'est rare qu'on attribue ça comme qualificatif à un short. Mais non, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Et ben, mon gros coup de cœur, ça a été un film documentaire qui s'appelle Photo Jaunie. C'est un film
qui a gagné un prix, je suis pas mal sûr.
Il a gagné un prix du meilleur documentaire, d'ailleurs, au RPCQ. En fait, et j'ai vu aussi le long-métrage documentaire, ça aussi, je pourrais en parler. Ça s'appelle Les Terres lointaines, de Félix Lamarche. Puis je pense que ces deux prix bien mérités. Le court-métrage, c'est un court-métrage très familial. En fait, elle a remis en bouche le journal intime de son père qui est décédé. Finalement, c'est un film de collage d'images d'archives. J'en dirai pas plus, là, mais c'est vraiment le... Ben non, disons que ce qui est vraiment qui porte le film dans une belle poésie, c'est littéralement ça. C'est, tu sais, le gars, c'était vraiment un closet writer, là, parce que vraiment, il y a une poésie magnifique. Mais en même temps, c'est très, très sombre quand même. C'est très un peu cynique, sa vision du monde. En tout cas, vous le verrez peut-être, là, j'ai l'impression que c'est un film qui commence un peu son parcours, mais c'est promis à de très belles choses. Puis Les Terres lointaines, c'est un film sur les marins, un documentaire vraiment maîtrisé, là, Félix Lamarche qui suivait son court-métrage qui s'appelait Des hommes à la mer. Mais c'est un film, ça peut-être rappeler un genre de transatlantique ou dans un autre registre, tu sais, un peu le genre de cinéma expérimental de autour de la mer, comme le Léviathan, par exemple. Aussi, mais on dirait qu'il y a un côté plus joueur, il y a comme plus d'humour, il y a un travail avec la musique qui est franchement intéressant. Non, on dirait que ça s'amuse quand même avec le canevas et il n'a pas peur de se mettre un peu en scène lui-même. On le voit jamais, mais on l'entend poser des questions, mais encore là, c'est pas consistant, c'est pas constant comme style. Donc le film est un peu un sac à surprises, ça renouvelle constamment notre intérêt, puis ouais, une belle poésie, on se laisse bercer par le film. Ça n'a pas été nécessairement un immense coup de cœur à tout casser que je vais défendre bec et ongle à toute ma vie, mais vraiment un beau film bien maîtrisé. Et Sylvain Belmort a fait le son d'ailleurs du film, genre, pour rester dans la thématique Oscar. Donc, tu sais, bien fichu niveau son et image, et ouais.
Non, puis c'est drôle que tu parles de Sylvain Belmort parce que c'est vraiment, tu sais. Je connais quand même assez peu le cinéma, le milieu du son au Québec, mais lui, c'est vraiment comme un des artistes les plus reconnus dans notre cinéma. Puis il a fait tellement de films d'ici. Puis d'ailleurs, ouais. Il a fait aussi le son sur Avant les rues de Chloé Leriche, qui a gagné le prix d'ailleurs de la QCC du meilleur film québécois de l'année.
Oui, que tu avais présenté d'ailleurs, Paul.
J'ai introduit le film, mais pas le prix. Et puis, puis justement, là, dans la salle, elle nous disait c'était juste avant la soirée des Oscars, en fait, c'était en début de soirée. Puis elle disait justement, on va savoir tantôt si Sylvain gagne un Oscar. C'était pour Arrival qui était nommé,
ouais.
Mais il avait fait le son aussi, entre autres, sur Avant les rues. Très grand artiste. Puis, puis Avant les rues, moi aussi, j'étais très content qu'il gagne le prix du meilleur film québécois de l'année. On en a déjà parlé du film.
Ouais, un peu, ouais.
Sinon, j'ai été voir le dernier de Kim Nguyen au RVCQ, Two Lovers and a Bear. Je savais pas que c'était un film en anglais, en fait. Je sais pas pourquoi. Mais bref, j'avais pas.
Très peu, malgré le titre.
Non, mais oui, c'est ça, mais parce qu'il y avait aussi comme Un ours et deux amants, donc le titre français, puis j'avais vraiment pas lu beaucoup sur le film, je savais que c'était un film qui se passait dans la neige, tout ça.
Ouais, Pascal, il avait été froid, hein, un peu froid sur le film,
sans
review du FNC.
Sans faire de mauvais jeu de mots, là,
je pense que j'avais...
Surtout le début, là, je trouve vraiment que c'était très... très foutraque, là, vraiment fourre-tout au niveau de comme qui fait quoi, puis où est-ce que le film s'en va. On dirait qu'il est intéressé par tout plein d'affaires en même temps, mais il est pas réellement intéressé sur ça. Rien précisément. On dirait qu'il y a vraiment, beaucoup d'indiscipline dans la première demi-heure qui, surtout, là, je trouve, là, on dirait qu'une fois que, parce qu'à un moment donné, ça devient un genre de semi-road movie, là. Puis là, à partir de là, on dirait que le film se canalise un peu, là. Ben, en tout cas, je sais pas toi comment tu l'as perçu, Paul, là, mais moi, ben, j'ai comme trouvé
tout à
que
fait. Y a
ça prenait son air d'aller à ce moment-là. Là.
Ah non, mais c'est tout à fait ça. Il y a clairement un nouveau souffle, en fait, dans la deuxième partie. Mais je pense en même temps que c'est un film qui est très patient, puis que ça permet aussi de définir les personnages, puis parce que le film joue avec certains clichés, c'est parce que c'est justement c'est comme deux jeunes qui sont dans le nord comme à Iqaluit, dans un petit village, on sait pas trop, puis clairement sont comme tu sais ils sont là parce qu'ils ont fui la civilisation, puis ils ont comme un peu des raisons d'être là, puis des regrets.
Ouais.
Donc, la première moitié du film, tu sais, comme j'espère que ça sera pas même tout le long, parce que c'est vrai qu'on reste un peu dans le cliché de, tu sais, on est dans le nord, on est alcoolique, on est ensemble parce qu'on a besoin d'un peu de chaleur humaine, puis tu sais, finalement, quasiment plus par nécessité que par vraiment amour. Mais c'est ça, vraiment, il y a comme une espèce de twist, puis des surprises, ben pas un twist, mais il y a le film prend des nouvelles directions, puis vraiment, il y a plein de scènes comme, on dirait que c'est tiré d'autres films ou que.
Exact,
puis, puis ça, il y a quelque chose de vraiment plaisant. Puis Kevin Nguyen, ça, c'est quelqu'un quand même qui est jamais à l'abri de nous surprendre. Toujours des tours un peu dans son sac. Puis c'est ça, c'est que c'est vraiment le fun d'écouter un film et de pas savoir où ça s'en va. Alors que la première partie, on avait vraiment l'impression de voir un film, un énième film sur la solitude dans le Nord. Là,
mais vraiment, c'est ça. Ouais, non, je suis d'accord. On dirait que les montées de lait, là, que je les appelle dans ce film-là, parce qu'on dirait vraiment que c'est un film qui a eu quelques. Tu sais, comme qui a une trame, puis qui a vraiment, genre, un peu des apartés, là, justement. Mais tu sais, mais des fois, c'est vrai que c'est bien, en fait. Ça donne un souffle. T'sais. On pourrait le questionner, puis jouer au cynique, puis se dire, ah, je me demande un peu pourquoi il fait ça. Mais tu sais, comme par exemple, comment il utilise Seven Nation Army, par exemple, il y a une utilisation de la musique qui est franchement audacieuse à un moment dans le film. Puis c'est comme, oui, on pourrait, mais au début, il y a des zooms vraiment. Tu sais, il y a comme plusieurs choses, effectivement, qui ont de l'air tirées de d'autres esthétiques, de d'autres films. Mais on dirait que, étrangement, dans une histoire un peu éparpillée comme ça, on dirait que ça fait quasiment du bien. Moi, j'ai trouvé que c'était quasiment des moments qui c'est comme, bon, un peu de cinéma, tu sais, yes, c'était le fun.
Non, puis ne serait-ce que pour l'originalité, en fait, du propos puis de la forme, ben, je trouve que ça en fait une belle expérience, en fait, puis je suis très content. En fait, c'est ça, je me demande pourquoi ça m'a pris autant de temps de le voir. Des fois, il y a des films comme ça que, je sais pas, peut-être parce qu'au Québec, tu sais, on est tout le temps dans la neige de toute façon, fait que dès qu'il y a un film qui se passe un peu dans le Nord, on dirait que non, mais vous avez pas ce sentiment-là des fois que, tu sais, parce que, mettons, pour d'autres pays, pour d'autres spectateurs, peut-être que c'est exotique,
c'est exotique.
Ben, alors que moi, je suis comme, tu sais, un film dans la neige encore, puis ils vont boire, puis ils vont être tristes, puis... mais bon.
Un coup que t'as tourné un film dans la neige, tu respectes beaucoup les films dans la neige parce que c'est tellement de la job à faire. Là. C'est comme tourner sur l'eau, mettons, genre, c'est impressionnant. Là.
Puis d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui m'a un peu distrait en tant que spectateur, c'est qu'il y a plusieurs plans, justement, qu'on suit les motoneiges, puis ces plans-là, tu sens vraiment que ça a été comme capturé à bord d'un skidoo, puis que, tu sais, même si il y avait sûrement comme des je sais pas comment t'appelles ça, là, mais tu sais, une espèce de structure pour stabiliser la caméra, c'est pas tout à fait là, puis il y a vraiment c'est vraiment les seuls moments, je trouve, dans le film où il y a une espèce d'amateurisme un peu dans le cadrage, mais c'est comme c'est parce que les conditions sont pas possibles, puis qu'il y a du vent, puis que ça devait être comme impossible à capturer parfaitement, mais ces moments-là m'ont vraiment dérangé, en fait.
Ouais, peut-être, ouais, mais puis Kim Nguyen disait de quoi d'intéressant quand il introduisait le film, parce qu'il y a quand même des belles choses au niveau, ne serait-ce de la photographie. Moi, c'est vraiment le récit puis les personnages là, qui m'ont accroché aussi. Tu sais, il y a plein d'affaires vraiment compétentes dans le film, là, on va se le dire. Mais il disait, puis c'est très poétique, il disait filmer le Grand Nord, filmer la neige et filmer la lumière, tu sais. Il disait fallait vraiment trouver la bonne façon d'exposer ça, parce que c'est bright, là, tu sais, une journée, là, où c'est le blanc puis le soleil qui tape, là, c'est comme, il faut redéfinir comment on filme ça, tu sais. Puis je trouvais que c'est une belle façon de l'aborder, une façon poétique d'aborder ça.
Puis d'ailleurs, il y a une espèce d'utilisation du time-lapse, là, qui est comme absolument géniale dans le film, là, sans vouloir dévoiler ce qui se passe, mais, tu sais, je sais pas si tu te rappelles les moments de paysage un peu avec le time-lapse, là.
Ouais,
je trouvais ça comme vraiment une belle petite idée de montage.
Qu'est-ce que tu disais, Rémi?
Comment ça s'inscrit dans sa filmographie, parce que il y a vraiment une filmographie étrange, si je peux le dire comme ça, là, parce qu'il a commencé en faisant du cinéma de genre, puis ensuite il a bifurqué vers le cinéma dramatique ultra réaliste avec il a fait La Cité, là, qui était un peu moins mémorable, disons, mais tu sais, il a fait Rebelle. Après, il a fait un Doc, il a fait Le Nez. Puis là, il revient à la fiction, sais-tu? Est-ce qu'il emprunte à un peu à... Parce que c'est vraiment... C'est une filmographie étrange quand même.
Ben c'est ça, non, c'est, ça assume l'étrangeté de son parcours non linéaire, là. C'est vraiment une autre bébite, puis comme... Ouais. C'est... Ouais.
Parce que c'est ça, parce qu'on veut pas trop te dévoiler un peu les surprises, mais tu sais, il y a un passage, c'est comme The Thing, un peu.
Ça flirte un peu avec le film de genre, même, là.
OK, OK.
Il y a aussi comme un ours qui parle, tu sais, puis c'est comme traité vraiment comme de manière stoïque.
C'est-tu vrai ce que tu dis, ou c'est genre pour
pas le vendre? OK,
c'est bon. Ça aurait pu, je sais pas.
Non, ça fait que malgré qu'il y a vraiment une trame narrative et dramatique très forte, surtout centrée sur le couple principal, les deux amants, il y a quand même des petites touches de poésie comme ça, mais c'est ça, ils sont pas surjoués, ces touches-là. Donc, tu tombes pas dans le ridicule ou dans le frivole ou dans la fable pour enfants ou des trucs comme ça. Parce que justement, ils traitent de manière ultra sérieuse. Donc,
ouais.
C'est ça. Fait
que, mais dans Rebelle, il y avait du fantastique, mais justement, ouais, qui était intégré au. Ben, c'était de la grosse métaphore dramatique. C'était vraiment intéressant de la façon que c'était fait, là.
Ouais.
Mais en tout cas, mais il devrait mettre ça sur le DVD quand même, ta quote, genre, c'est un peu comme The Thing, puis il y a un ours qui parle, Paul Landrieu, puis je te jure que le DVD va vendre, là.
Il y a même une scène, là, qui fait vachement Danny Boyle avec 127 heures, là.
Ah, ouais, OK. Mm-hmm.
Donc, bref. Mais non, je pense que t'aimerais ça, Rémi. Ouais, c'est assez audacieux. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres films au RVCQ que tu voulais souligner, Pascal?
Ben, juste en rafale, tu sais, j'ai vraiment tenu mes promesses, j'étais allé voir tous les films que je voulais aller voir, que j'avais dit que j'allais aller voir, donc j'étais allé voir Pays, je suis allé voir Montréal la Blanche, je suis allé voir, mon Dieu, t'as peu, là, j'en oublie d'autres, là. Ah, mais j'ai vu Tuk Tuk de Romain Aubert, je m'éterniserai pas dessus, mais c'est une belle bébite, ça aussi, hein, il a fait un film comme, aussi, dans le Grand Nord, donc c'est un beau relais, une belle transition, mais en fait, on a vraiment l'impression que c'est un film très artisanal, tu sais, c'est comme, il est un peu tout seul pour faire son film. Il acte dedans, mais un peu parce que c'est la première fois en fait qu'il réalise un film où il se met en scène en tant qu'acteur, c'est ça. Là ici on dirait qu'il le fait par nécessité, ce qui a été, ça paraît un peu quand tu vois le film, ça a été un peu confirmé pendant la question-réponse qui a suivi. Et en gros, l'histoire, c'est l'histoire d'un caméraman de télé communautaire qui est engagé par un ministre, là, par le gouvernement, pour aller filmer un village. Puis rapidement, on se rend compte que l'agenda du gouvernement est un peu... Il est un peu mandaté pour filmer des images comme trash, tu sais, pour justifier qu'ils vont relocaliser le village. Bon, c'est pas un punch, mais tu sais, on l'apprend un petit peu en pleure d'oignon, là, mais ça, disons, après 15-20 minutes dans le film, on sait vraiment que c'est là qui est là pour ça. Puis, ben là, en parallèle, t'as un peu cette désillusion par rapport au cynisme politique, puis comment qu'il commence à créer des liens forts avec les gens là-bas, tu sais. Fait qu'il remet de plus en plus en question. Tu sais, c'est un peu un genre de Joe Blow qui a pas d'opinion politique jamais au début du film, puis il en vient qu'à questionner, tu sais, moralement, éthiquement, les décisions politiques douteuses de son pays. Mais tout ça, ça se passe par des appels téléphoniques, et il a un rôle... juste vocal, mais c'est Robert Morin qui joue le ministre.
Wow.
Puis Robert Morin, là, il est vraiment bon comme acteur. Puis non seulement, mais disons, il se considère pas comme un acteur. Puis d'ailleurs, Robert Morin, il a dit dans la question-réponse, ça a pris 2 semaines à le têter pour qu'il finisse par dire oui. Il était tout le temps comme un... Ben non, là, je suis pas acteur, pogne-toi quelqu'un d'autre, tu sais. Puis il était vraiment un peu, tu sais, ce genre d'attitude-là, là, à la Robert Morin. Puis finalement, Robin Aubert a fini par le convaincre, et une chance, parce que il y a vraiment de la personnalité, tu sais, il y a un genre de franc-parler, il y a une façon de s'adresser, il y a une chaleur quand même dans comment il parle, Robert Morin. Puis c'était exactement, je pense, la bonne note pour jouer le politicien. On dirait que j'aurais vu aucune autre façon de... Parce que c'est quand même très appuyé au niveau de ses thèmes, là.
Quand, ben, c'est ça. Quand... Tu fais le synopsis, puis on dirait que tu faisais le synopsis d'un film de Robert Morin, là. J'avais vraiment
suivi. Ouais, ben c'est ça. C'est un peu exactement aussi. Puis, mais tu sais, on dirait que jouer autrement, ça aurait pu être un peu lourd, là, tu sais, le gars qui se fait dire, ouais, film, tu sais, du gore, puis de la chasse, puis du monde qui se saoule, puis tu sais, je sais pas, tu sais, c'est comme ça aurait pu être rapidement vraiment didactique, puis lourd, puis comme on comprend où est-ce qu'il veut en venir. C'est un peu comme ça, mais en même temps, il y a assez de poésie, puis c'est assez low-fi dans les images, que c'est comme, c'est quand même une autre chose. Puis Robert Morin. Genre, il est vraiment assez convaincant pour créer un personnage vraiment de toute pièce avec juste sa voix. Non, disons que moi, c'est l'étoile du match revient quand même là, revient au j'oserais dire génie de Robert Aubert d'avoir casté Robert Morin dans ce rôle-là. Et ouais, puis c'est ça, finalement, j'en suis ressorti. C'est très bien, en fait. C'est j'aurais rien de plus à dire. Là.
À écouter éventuellement en double features avec Of the North. Peut-être?
Non, ouais, oui, en fait. Mon Dieu. Mais non, donc Tuk-Tuk, j'en ressors avec des bons mots.
Super, donc c'était les RVCQ. De retour l'année prochaine, évidemment. Et nous avons vu également cette semaine les deux films, en fait, qui trônent au box-office en ce moment, numéro 1 et 2, respectivement. Tout d'abord, la 9e et dernière fois que Hugh Jackman interprète Wolverine, le mutant canadien au griffe de la Mantia.
Je suis content que ce soit Pascal qui l'ait vu en plus, parce que Pascal n'aime pas les films de super-héros, mais comme, genre, maladivement, haït ça, là.
Ben, moi aussi, j'allais voir, en fait, vendredi soir.
Ah, t'es allé voir aussi?
Ouais, jour d'ouverture avec ma copine. Moi, je suis un très grand fan, en fait, de films de super-héros en général. Et aussi de la franchise X-Men. James Mangold, il n'est pas ses premières armes dans le monde des super-héros. C'est lui qui avait réalisé le Wolverine qui se passe au Japon.
Ouais.
Donc,
ça, c'était le bon, ça, parce que. Il y avait Origin, puis il y avait l'autre après.
Ouais, ben les deux.
Origin, c'est la merde, puis The Wolverine, c'est lui qui est pas pire entre les deux. Là.
Moi, je trouve qu'il n'y a pas grande comme différence de qualité.
Mais,
entre les deux,
attends, là, il y a un monde là, entre les deux. Là. C'est comme. Ben, ça se peut même pas, là.
On pourrait en reparler, mais pour l'instant, Logan, donc les adieux au personnage de Hugh Jackman, comme ça a été dit et redit. Est-ce que pour toi, Pascal, ça, c'est une espèce de sortie par la grande porte? Et puis, est-ce que tu es triste de voir cet acteur quitter ce rôle iconique?
Ça part avec un bon, là.
Ouais, ça part avec un bon. Ben, attends un peu, on va faire un synopsis là, avant de plonger dedans, là, I guess. Là. Mais je t'entends, là, puis je vais répondre à ta question par la longue. Par la longue réponse. Ben, un peu de contexte. Pourquoi Pascal Plante est allé voir Logan un vendredi soir, la soirée de première du film? En fait, c'était une soirée de bro, là. J'étais avec mon grand frère et mon cousin, puis c'est ça. On avait comme prévu de se voir, puis mon frère y allait avec son cousin, puis avec mon cousin. Puis on s'est dit, ah ouais, viens donc. Puis je t'avoue que j'étais comme, ah, ok, tu sais, ils m'ont un peu extirpé, là, de chez moi. Donc je partais comme ça, mais en même temps, James Mangold, c'est un réalisateur qui est quand même intéressant. T'sais, il a fait Walk the Line, Girls Interrupted. Disons que je pensais qu'il allait adresser quand même le genre de film de super-héros. Et n'ayant pas vu aussi The Wolverine, là, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais à tout le moins, je me disais, il y a peut-être comme une mise en scène qui va être quand même porteuse. Puis, et aussi, on nous le vendait quand même comme un film qui se tenait debout assez bien de façon indépendante. Donc, pas obligé d'avoir vu Wolverine les 8 autres fois pour quand même, je pense, apprécier le film dans sa trame, dans son histoire, un peu de façon primitive, là, comme un stand-alone.
Et il faut dire que l'accueil critique, particulièrement aux États-Unis, est aussi, ultra favorable. Il y en a qui qualifient ça de meilleur film de super-héros de tous les temps. Il y en a qui sont comme enfin une espèce de... une leçon à Marvel qu'il faut changer la formule, tout ça.
Ouais.
Donc...
Mais parce que l'histoire, en fait, est quand même toute simple. Puis, il y a une volonté de renouveau. Oui, on reprend le personnage de Logan, là, de Wolverine, mais si ça se passe dans le futur, là, en 2029, si je ne me trompe pas. Puis, il y a vraiment plus grand mutant sur la planète. Là, t'as l'impression qu'ils sont devenus un peu des renégats. Puis, tu sais, c'est un peu illégal d'être un mutant. Donc, ça fait aussi peut-être des échos à tu sais, ça devient un peu les l'autre, là, tu sais. Des échos peut-être à l'Hollywood, à l'Amérique de Trump, peut-être, tu sais. Donc, il y a quand même quelque chose de... tu sais, je pense intéressant au niveau contextuel à ce niveau-là. C'est un peu plate comment ça se produit, là, mais il se fait un peu mandater par une infirmière. Bon, on apprend plus tard que c'est une infirmière, là, puis je ne rentrerai pas dans les détails, mais bon, de l'amener du point A au point B avec une jeune fille mystérieuse. Et je vais en rester là avec pourquoi elle est mystérieuse, la jeune fille, mais je pense que vous le voyez venir quand même long comme le bras. Et finalement, ça devient un peu un road movie avec... et Xavier d'un côté, donc une relation un peu paternelle entre Xavier et Wolverine, peut-être, et relation un peu peut-être paternelle entre ce nouvel enfant-là qu'ils doivent amener en eau sûre. Mm-hmm. Et puis là, ils sont traqués, puis c'est à peu près aussi simple que ça, au final, l'histoire. Mm. Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que j'oublie des soubresauts importants?
Non, vraiment pas. Puis c'est justement puis même, tu sais, je veux dire, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, même si on voulait tout dévoiler pour un film qui dure 2h15. Le synopsis, c'est très mince, en fait. Je pense que l'intérêt du film, surtout peut-être pour les fans, c'est vraiment de voir les adieux aux personnages de Hugh Jackman.
Ouais.
Parce que...
ouais, mais des fois, un synopsis mince, ça marche mieux qu'un synopsis trop compliqué. Ben, c'est ça. Tu sais qu'un Mad Max Fury Road, comparativement à une cochonnerie comme un Batman vs Superman qui essaie de trop mettre dans une espèce de, de gros épique shit, là. Des fois, t'as mieux la trame simple.
Exact, exact. Donc, il y a une simplicité là qui est quand même bien. Bon, on vient à ma première critique. Les motivations des personnages sont un peu floues. Mais tu sais, aussi, c'est parce que, regarde, le but, là, c'est genre d'aller au Canada de franchir une frontière parce que là, politiquement, ils pourront plus être traqués. Tu sais, c'est un peu plate, tu sais. C'est un peu facile. Tu sais, c'est comme genre le derrière la clôture, tu vas être safe, puis on dirait que c'est genre jamais vraiment questionné, puis c'est pas assez politique non plus pour que ce soit intéressant. Mmh. Fait que tu sais, c'est un peu jeu vidéo, là, genre faut se rendre là parce qu'il faut se rendre là, puis on va être safe si on se rend là. Fait que tu sais, est-ce que vraiment on est porté par des enjeux forts? Moi, j'ai trouvé que non, en fait. Mmh. Puis surtout que le personnage principal, Logan, il est très cynique. Ça aussi, ça se peut, hein, c'est même le fun peut-être d'avoir... tu sais, quelque chose d'un peu dark. Puis le film est très dark aussi, là. Tu sais, ça, c'est vraiment le je pense que on a tôt fait, je pense, de le comparer à la franchise de Nolan, par exemple, là, des Batman, bon. Mais donc, il est extrêmement cynique, puis il questionne toujours, au final, les enjeux du film. Mais on dirait que nous, en tant que spectateurs, on fait la même chose. Fait qu'on est comme... pourquoi ils font ça? Pourquoi ils vont là? Puis, puis comme le film se prend au sérieux, ça peut ne pas être un problème quand t'écoutes genre Guardians of the Galaxy, mais ça devient un problème rapidement quand tu vois un film qui se prend beaucoup au sérieux. Un peu comme le Dark Knight Rises, t'es comme, tous les plot holes, ils ne passent plus. Parce que c'est trop... Ça a trop créé de sérieux, ça a trop une aura.
Mais c'est trop de faire un réaliste, film d'auteur à travers un film popcorn, c'est ça le problème.
Fait que tu sais, puis par exemple, la jeune fille, elle passe vraiment de débile léger mais adaptée à comme pleinement fonctionnelle à la fin du film, là. Puis tu sais, on l'accepte tellement pas. Moi, en tout cas, je sais pas pour toi, Paul, mais j'ai tellement pas accepté ces raccourcis-là parce que le film se prend au sérieux. Le film a vraiment des qualités, hein, en fait. Mais donc, justement, on dirait que j'ai comme tellement aimé certains aspects que... j'étais vraiment dans ma tête souvent à me dire comme pourquoi si, pourquoi ça, puis là c'est justifié pour une scène d'action ou c'est justifié pour... puis ça a un petit peu brisé une magie naïve peut-être, tu sais. Donc pour moi, et avant de te passer le micro, Paul, moi le gros problème aussi c'est que c'est pas vrai que le film se tient debout complètement là, comme un film tout seul. Tu sais, moi, il a comme fallu que mon frère m'explique que, ah ouais, Wolverine, il peut plus vraiment guérir à 100% parce qu'il a comme été empoisonné dans tel film. Puis là, tu es comme, ah ouais, ok, tu sais. Il y a des affaires comme ça, un peu de base, que je comprenais pas vraiment. Puis ça a un petit peu brimé mon appréciation du film. Puis aussi, il y a
En même temps, c'est loin d'être ultra complexe. Je veux dire,
non, c'est pas... non, exact.
Il est juste loin de te dire, ben, il est empoisonné, fait qu'il guérit plus aussi bien, puis d'attitude.
Ouais, je veux dire. Exact. Non, c'est vrai. Mais moi, je trouve que le bas blesse au niveau des personnages secondaires. Tu sais, comme le personnage Blame, là, qui sert à traquer les autres, là, en tout cas, je ne vais pas dire... lui, là, je veux dire... c'est lourd, là. C'est un personnage tellement en carton, là. Puis là, encore là, on pourrait sûrement défendre le film. Oui, mais dans la BD, c'est un peu comme Hawkeye dans le premier Avengers. C'est comme, oui, mais genre, c'est Hawkeye. Oui, mais je m'en crisse de Hawkeye. Tu sais, ce personnage-là, là, je m'en crisse vraiment, là. Tu sais, enlève-lui les genres de méchants. Tu sais, les méchants sont plates à chier aussi dans Logan, là, j'ai trouvé. Ce qui fonctionne, moi, te le dire, moi, c'est quoi qui fonctionne dans Logan? C'est les relations. Les relations humaines, en fait, ils fonctionnent curieusement bien. La relation Xavier-Wolverine, Il y a même, c'est quasiment même émouvant, genre, à un certain point dans le film.
Mais c'est des personnages... C'est des bons acteurs charismatiques qui ont déjà une relation dans la vraie vie à cause de tout le temps qu'ils ont passé ensemble sur des plateaux, puis ils ont développé quelque chose ensemble.
Puis la jeune fille qui joue Laura, elle s'en tire à merveille. C'est vraiment un... Moi, j'ai trouvé... En tout cas, encore là, je sais pas pour toi, Paul, mais j'ai trouvé que le film brillait dans ces moments-là. On les voit vulnérables, on les voit comme vrais. Puis là, après ça, tu plaques un genre de méchant avec une dent en or qui les poursuit. Ça marche pas, guys. Je veux dire, si on vous avez monté le niveau, montez-le partout, parce que sinon, on le remarque. Puis moi, c'est vraiment là. C'est les bêtises de scénario, c'est les méchants en carton, c'est les personnages secondaires qui servent juste une fonction pour les geeks. Si moi, tout ça, ça le faisait pas. Je suis désolé. Et toi, Paul, qu'en as-tu pensé de Logan?
Ben, écoute, moi, je te trouve clément, parce que je trouve que c'est un désastre, ce film-là, puis je m'attendais jamais à dire ça. Je comprends absolument pas l'accueil critique du film. Il y a tellement de problèmes avec le film, selon moi, mais au lieu d'aller dans le détail, puis dans le fignolage, moi, je trouve que c'est des problèmes fondamentaux qui sont là.
Ouais.
Numéro 1, OK, le film souffre du problème très commun que... Wolverine, okay? C'est un personnage intéressant quand on le voit pas beaucoup, quand il fait partie d'une équipe, parce qu'il est badass, il est cool, il vole les scènes dans tel film d'X-Men, parce que c'est comme, il est tellement cool. Quand tu as un film au complet dessus...
Ça devient lourd, rapidement.
Tu te rends compte qu'il n'y a pas une très grande profondeur psychologique. T'sais, il est toujours fâché, il veut pas être super-héros, il s'en fout, il sacre, il est brutal. Puis, fait que ça, c'est comme... C'est le syndrome de faire un spin-off sur un personnage, finalement, qui aurait dû rester secondaire. Deuxième problème, t'en as déjà un peu parlé, c'est à quel point le film se prend peut-être au sérieux et donc à quel point le film essaie de donner un grand souffle épique, tu sais, d'une durée de plus de 2h15. C'est pas la durée le problème, c'est le rythme aussi. Il y a vraiment des longs moments qu'on aurait pu comme exciser puis qui servent vraiment à pas grand chose.
Donnons un exemple. Il y a vraiment une escarmouche à maner où ils vont. Ça, c'est une scène en soi que j'ai trouvé quasiment des plus intéressantes du film. T'sais, ils vont genre souper dans une famille et tout ça.
Ouais.
Mais là, après ça, ils vont. Là, c'est vraiment, vraiment de la merde le scénario à ce moment-là. C'est comme genre l'eau. Non, mais l'eau arrête. Puis là, ils vont au water tank, là, genre pour régler l'eau. Puis là, on se rend compte qu'il y a comme. Là, il y a comme des genres de cowboys là, qui débarquent parce que c'est comme le. Tu sais, vous trespassez ma propriété puis tout ça. Puis c'est genre juste une autre scène. Un peu bidon qui sert juste à montrer à quel point que Wolverine il est badass, pis tu sais, comme. Mais genre, il y a vraiment comme. Moi, c'est pas tant les longueurs dont tu parles. Moi, je pense pas que c'est nécessairement au niveau du rythme, c'est au niveau de. Je crois qu'il y a aussi de choisir un petit peu. Pis ça, par exemple, pour moi, c'est évident que c'est juste genre, ça faisait 8 pages dans le scénario qu'il n'y avait pas eu d'action, fait que ça prend de l'action là. Ouais mais. Si l'action a aucun enjeu, pis que ça sert à rien, pis que c'est une parenthèse au-dessus du récit. Ça sert, tu sais. Non, juste profite de ton temps pour builder la prochaine scène d'action qui va, elle, peut-être avoir plus d'enjeux puis être plus importante, tu sais. Mais bon, excuse-moi.
Puis par rapport à ça, par rapport à l'action aussi, puis par rapport à la violence, en fait, moi j'ai un très gros problème avec ce film-là parce que j'ai pas de problème en tant que tel qu'un film soit violent, mais j'ai l'impression que ce film-là réfléchit très peu à sa violence puis l'utilise comme à gauche puis à droite partout, comme
un peu choquant, là.
Comme un junkie en manque de sucre ou quelque chose, ou tu sais.
C'est un peu un syndrome post Deadpool, parce que Deadpool c'était super violent, puis on fait oh my god, ça marche, on a fait du cash avec ça en le mettant rated R, en adressant ça à des adultes. C'est comme un peu ça qui était le game changer dans les Marvel, là.
Mais possiblement, puis un peu aussi comme David Ayer qui avait fait Suicide Squad, puis qui avait fait End of Watch avant, puis des films comme très violents comme ça, qui ont, c'est ça, tu sais, le nouveau genre greedy, violent, tout ça. Puis là, où je pense aussi à, j'ai pas vu les John Wick, là, mais à ce qui paraît aussi, ces films-là, il y a vraiment comme une grosse utilisation de la violence qui
peut être. Mais remontons un peu à Tarantino, c'est un peu le même discours, sauf que Tarantino, il s'amuse avec, ou du moins la violence, ça en devient une esthétique, ça en devient une esthétique quasiment d'auteur, il y a une vision esthétique dans la violence. Il y a un statement latent, là, mais il y a un statement qui est fait par la violence pour afficher le style. Effectivement, dans Logan, est-ce que ça affiche le style? Pas vraiment, puis le film affiche ses couleurs dès le début, là, vraiment avec une première scène où t'es comme « oh shit ». C'est pour que les gens sachent, dans la salle fasse comme « Wow! » Genre, t'sais, « Oh shit! »
C'est ça. Mais un moment comme ça, genre, ça marche.
Ça, comme, ça réfléchit pas plus que ça. Ouais.
C'est ça. Ça marche ouais. comme au début parce que, tu sais, la première fois qu'il plante ses griffes dans la tête de quelqu'un puis qu'il retire puis il y a du sang partout, t'es comme... Comme, ok, ouais, ce film-là, ça va être sérieux. Là, genre, tu sais, shit is getting ouais. real. Puis, mais quand il fait ça à toutes les scènes, puis que, tu sais, t'as tellement de figurants que c'est de la chair à canon, finalement.
Ouais, c'est ça.
Y compris.
Des gros gars avec des tatous, là. Tu sais, comme ouais. la représentation de la genre d'armée, là, les méchants, là. C'est vraiment ça, là. C'est
avec
genre.
Des Mohawks, là. Puis.
On dirait qu'ils sortaient, de Mad Max, là.
Genre, ben, t'es ça, à la limite, c'est correct, non. là, tu sais, parce que c'est le côté peut-être BD un peu qui ressort, là. Mais.
Non, je sais, mais. Ouais. Mais c'est ça, mais de la chair à canon, là, complètement,
ouais,
tu sais.
Ouais. Ouais. Puis ça marche, mettons, tu sais, Dark Knight, là. Il y a la scène avec le crayon, là. Puis le Joker. On s'en rappelle tous parce que c'était comme la seule fois du film où il fait ça, tu sais. Puis c'était comme vraiment, dans le cinéma, à ce moment-là, là, c'est vraiment comme, wow, là, qu'est-ce qui vient de se passer? Mais Wolverine, au bout de 15 minutes, là, t'es comme, ok, ben, il va encore comme, tu sais, toutes les rentrées de ses griffes dans la tête, puis... Fait que ça, vraiment...
Puis des jambes, puis ouais.
Ouais, fait que ça finit par comme, t'es un peu immunisé, puis blasé la violence. Puis, il y a tellement d'autres problèmes dans le film, mais bref, c'est juste que je trouve que ça sonne... Fondamentalement, le film, on dirait qu'on a juste vendu comme étant... Ben, c'est avec le... Tu sais, Hugh Jackman, il accroche ses gants de boxe. Tu sais, c'est comme... Il prend sa retraite, venez le voir une dernière fois, un dernier round. Puis, tu sais, pour moi, c'est comme la fois de trop, peut-être. Puis, ça sonne comme, tu sais, une série télé, mettons, là, qu'un acteur, là, la saison qui s'en vient, a déjà dit qu'il la ferait pas, là. Puis que les scénaristes doivent trouver, comme, une façon de faire disparaître les personnages.
Tu sais qui meurt ou qui s'en va, au loin en auto, là.
Ouais, quelque chose comme ça.
Puis c'est Rocky 5, là. Ouais. Tu sais, Rocky 5, là. T'sais, c'est peut-être un peu le Rocky 5, le Wolverine Rocky 5. Là. Mais
parce que c'est genre... ça. Moi, je trouve que c'est ça, c'est superflu, en fait. C'est que le film au complet, ça dit pas grand-chose. Puis, je sais pas, dans la salle, je l'ai vu, c'était pacté, là, c'est vendredi soir. Ah, moi, puis les gens, comme, étaient contents, là, mais comme, tu sors de là, puis moi, puis Laurie, on se regarde, ma copine, on se regardait, on comme, on n'a pas appris grand-chose. Alors que d'autres.
Non, mais
puis, on n'est pas non plus. Fermé.
C'est pas ça le but, là, mais
non,
ouais.
Non, c'est pas ça le but, mais. Puis même les moments comme supposément émouvants, parce qu'il y a eu beaucoup, effectivement, d'importance, puis sur la relation entre le professeur Xavier et Wolverine, tout ça. J'ai pas trouvé que c'est si convaincant que ça, nécessairement. Mm. Parce que peut-être aussi le film prend pas assez de temps pour être là-dessus. Peut-être que si vraiment il y avait. Tu sais, c'était vraiment un gros film sur la remise en question de super-héros, tout ça. J'aurais peut-être trouvé ça plus concluant. Je trouve que dans, mettons, Iron Man 3 faisait un peu ça déjà, le faisait peut-être un peu mieux, mais bref, je trouve vraiment pas que le film apporte quoi que ce soit, là, puis même que moi ça vire à l'écœurement à la fin du film. Je suis comme bon, ben, t'sais.
Je vais donner un peu, c'est ça, comme moi je disais, en fait je t'entends 100%, mais on dirait qu'à un certain point, moi ça m'a pas écœuré. Tu sais, toi tu parles d'écœurement, moi ça m'a pas écœuré. Ça m'a anesthésié un peu, tu sais, dans le sens, j'étais devenu un peu immunisé à tout ça. Là. Non, mais comme, c'est vrai, parce qu'à un moment donné, il y a peut-être effectivement une genre de surenchère, tu sais, de lui fâché et de lui violent, là, tu sais, fait que, bon. Mais, moi, j'ai trouvé qu'il y a quand même, le film brille dans quelques scènes, il y a quand même, moi, j'ai eu des moments petits gars, là, je les appelle les moments petits gars, tu sais, comme l'introduction, par exemple, de la petite, puis de son pouvoir, puis de, comme... Qu'est-ce qu'elle fait? Genre, c'est quand même une scène, j'oserais, tu sais, elle filme un peu idiot, critique idiote, là, mais tu sais, les moments badass, je trouve qu'il y a quand même des moments badass qui fonctionnaient. Genre, cette scène-là, j'étais comme, oh shit, genre, tu sais, j'étais dedans, il y a un moment qui se passe dans un casino, par exemple, une scène qui se passe là, puis j'étais comme, ah, tu sais, non, il y a quand même, malgré tout, je trouve que le film tire quelques bonnes scènes, extirpe des bons moments, puis brille quand même un peu dans les relations. Mais vraiment, est-ce que c'est ça le meilleur film de super-héros de tous les temps? Fuck non, là. Vraiment pas. Là. vraiment pas. Là.
Mais pour le meilleur ou pour le pire, est-ce que ça fait changement quand même de la formule Marvel traditionnelle? T'sais, la grosse question, là. Ou ça revient un peu au même
Non, dans quand ses même, bases? Parce que aussi, même esthétiquement, on est plus proche d'une caméra épaule par moment. Des fois, vraiment, tourner
plus tout proche. J'ai trouvé plus beau, moi, mais plus intéressant visuellement que d'autres films de Marvel, quand même.
Mais ça, c'est moins léché, c'est ça, c'est plus... Ça rejoint bien un peu le fond du film, une espèce d'esthétique vieillotte, peut-être, lourde à porter, parfois... Fait que juste dans le look de Logan, tu sais, sa barbe, tu sais, c'est il y a comme tu sens qu'il est vieux puis il est fatigué, puis ça rejoint bien en fait là, le propos du film. Mais est-ce que c'est innovateur plus que ça?
Oh, non,
je pense pas. Non. Donc, c'est Logan, ça l'affiche partout. Je pense que plusieurs personnes qui l'auront déjà vu lorsque le podcast sera publié. Et sinon,
mais là, un petit dernier, là.
L'autre film, peut-être le premier gros succès surprise de l'année 2017, j'oserais dire, c'est Get Out de Jordan Peele, un film d'horreur que tu as vu, Rémi, et j'en sors également.
Ouais, je suis vraiment content que tu sois allé le voir aussi pour qu'on en jase un peu, mais ouais, une grosse surprise en fait. Hein. Un petit film, là, genre petit budget.
Ben, une autre production de Blumhouse dont on parlait, eux qui ont fait Split notamment.
Ben, c'est Jason Blum en fait qui est à base de ça, qui ben, Split, mais aussi Paranormal Activity, les films de James Wan aussi. C'est lui qui avait produit Lord of Salem de comment il s'appelle, donc Rob Zombie, ouais. C'est ça. Ben, tu regardes là, sa filmographie, là, je l'ai devant les yeux, là, Sinister, c'est tous les films d'horreur, en fait, c'est rendu le gros producteur de petits films d'horreur. C'est, il en fait la tonne à l'année, il en sort quasiment un par mois, tu sais, même des fois plus, là. C'est juste moi-ci, c'est ça, là, il y en avait deux. Puis là, il s'en va chercher un humoriste pour réaliser un long métrage d'horreur. Ben, je sais pas d'où sort le projet, là. C'est peut-être plus Jordan Peele qui est venu avec le projet, il a passé par la boîte, mais Jordan Peele de base, c'est quoi déjà le nom de l'émission? C'est Key and Peele, c'est ça, qui avait entre autres il jouait dans leur long métrage Keanu sur le kidnapping d'un chat, là. Je l'ai pas vu, ça a l'air quand même drôle, là.
Ouais, non,
t'as-tu vu, Paul?
Non, je l'ai pas vu. Donc, Get Out, c'est ça, de Jordan Peele, c'est un couple qui s'en va donc à la maison des parents de la fille pour la fin de semaine. Elle est blanche, il est noir, il est un peu inquiet, il me demande est-ce que tu as annoncé, puis elle dit mais non, fais-toi-en pas, tu vas voir, c'est des vieux parents blancs comme n'importe quel parent, ils vont te parler d'Obama, ça va être lourd, mais inquiète-toi pas, on va s'en sortir, puis tu vas en rire de la semaine prochaine. Mais tout ne se passe pas comme prévu.
Comme il voudrait.
Ouais.
Ça dégénère. C'est un setup assez basic de film d'horreur, mais qui est fait avec une bonne idée en arrière, une idée un peu plus recherchée que juste donner des scares au public. T'as le contexte racial, en fait, qui est assez actuel, qui est assez important, puis qui agit comme trame de l'histoire. Mais en plus, c'est dans un contexte de huis clos. Simpliste, mais ô combien efficace, là. Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé, Paul?
Ben, c'est une très belle surprise, puis effectivement, ça utilise les clichés, en fait, pour venir un peu comme énergiser, puis peut-être remonter à la surface, tu sais, des inquiétudes qui sont sous-jacentes dans la société, en fait, là. Tu sais, combien de Noirs pensent que les Blancs sont tous racistes? Puis tu sais, même si c'est pas conscient, mais je veux dire, tu sais, ça joue, en fait, sur des espèces de faiblesses de l'Amérique, pour en fait les utiliser, pour en faire vraiment comme une espèce de récit ultra galvaniseur dans, quand tu l'écoutes en salle. Là. Ça fait un peu penser à I Spit on Your Grave. C'est comme ça revire un peu le schéma habituel. I Spit on Your Grave, c'est l'histoire d'une femme justement qui était violée, puis qu'elle se mettait à comme tuer, puis pourchasser tous ses agresseurs. Donc, quelque chose de vraiment comme ouais, vas-y, t'sais, girl power, t'sais, pour une fois que c'est elle, ou Dead Proof aussi, t'sais, justement, c'était comme les femmes qui prenaient leur revanche. Dans ce cas-ci, c'est ça, c'est comme le noir qui est comme. T'es habitué de. Puis des fois, en fait, puis ce que le film fait très bien, c'est qu'il montre qu'il est victime, pas d'un énorme racisme, mais d'un. Tu sais, un petit racisme, tu sais, sous-jacent, tu sais, comme un policier à un moment donné, parce qu'ils ont une mésaventure, ils ont un petit accident de route. Puis lui, tu sais, il est dans le côté passager, c'est la femme qui conduit. Mais le policier demande, hein, est-ce que je peux voir votre permis de conduire, tout ça. Puis la femme fait comme, ben non, pourquoi, tu sais, il a rien fait, c'est pas lui qui conduisait, tout ça. Donc, puis ça, le film
Ça. Mais c'est les petites phrases aussi, tu sais, ça nous fait réfléchir aussi en tant que blanc, en fait, à ces réactions-là. Puis des fois, les petites questions qui peuvent juste comme tout le temps piquer le fait que bon, t'es black, fait que je te pose cette question-là. Il y a une espèce de banquet à un certain point dans le film, puis les seuls sujets de conversation, ça bifurque tout le temps au fait que le mec il est noir, fait que c'est juste fatigant, puis t'embarques dans sa tête, puis ça, c'est ça, là, ça te fait réfléchir sur autre chose que le film d'horreur, là. Ça te fait réfléchir sur un truc qui est très moderne, où les gens se disent pas racistes, mais en même temps, il y a quand même une petite différence toujours. Il y a cette petite différence-là qui reste dans l'air. Puis c'est ça, là. Ça rentre dedans à ce niveau-là. Mais ça rentre dedans aussi en tant que film d'horreur parce que c'est très tête, là. Tu vas dire comme ça, là, mais au niveau. L'acting est excellent, là. Le comédien principal, il est vraiment génial. Puis montage efficace. Des scènes que j'ai vues dans la bande-annonce, puis je me disais. Tu sais, je sais pas comment ils vont les builder. Parce que dans la bande-annonce, on voit qu'il y a une scène d'hypnose. Puis je trouvais que ça avait l'air un peu cheesy. Puis un coup dans le film, j'avais des frissons. C'est venu vraiment me chercher. C'était vraiment bien, bien fait. Très, très satisfaisant. Mm-hmm. Puis je dirais qu'un autre point fort qui est très important dans un film d'horreur, c'est de trouver la balance entre la comédie puis l'horreur. Puis il y a un personnage, en fait, supplémentaire qui est comme un des bons amis du personnage principal, qui est souvent au téléphone avec lui à distance, qui, dans le fond, qui est un peu sa béquille, parce qu'il l'appelle pour lui dire, hey, ça va pas super bien, ou ah, ça va bien, il va le texter. Mais ce mec-là, il est tellement drôle, là, il est vraiment drôle, puis toutes ces scènes-là sont hilarantes, puis ça permet de cool down un peu avant de revenir dans l'horreur, dans la grosse critique sociale aussi. Il y a cette balance-là qui fonctionne vraiment bien, là.
Ouais, parce que Jordan Peele, en tant que cinéaste, là, il réussit tellement bien à, comme, manipuler nos émotions, là. C'est ça, on passe vraiment de, comme, la grosse angoisse au rire, puis vraiment, moi, je l'ai vu en salle, c'est ça, je sors de là, puis, tu sais, t'as vraiment des moments, là, qu'il y a la tension, puis tu comprends, puis c'est le fun, tu sais, c'est comme, c'est galvanisant d'embarquer là-dedans, parce qu'il a vraiment bien établi le malaise que peut, comme, tu sais, puis tu le comprends, son malaise, même si, tu sais, évidemment, nous, on peut pas vraiment, comme, être dans sa peau, mais, tu sais, il nous fait sentir, là, toute cette empathie, puis... t'sais, à quel point lui doit composer avec ça comme quotidiennement, puis fait que c'est pour ça, c'est parce que lui, même s'il voit plein de choses un peu qui sortent de l'ordinaire, ben pour lui ça fait partie un peu de son quotidien, fait qu'il se dit bon ben c'est juste du racisme un peu normal entre guillemets,
inoffensif, ouais, mais qu'il l'est pas quand même, mais...
avec l'accumulation ça devient pas inoffensif,
c'est ça l'effet d'accumulation, là.
Non, puis par contre, je trouvais que peut-être que le troisième acte était moins solide, puis pas tout à fait aussi satisfaisant que j'aurais voulu.
Ouais, ben c'est l'acte plus, disons, spectacle, entre guillemets, là. C'est le bout où t'en mets plein la vue parce que c'est un film d'horreur, puis parce que tu vas arriver à ta grosse finale.
Ouais.
Mais moi, ça m'a pas dérangé.
Mais le build-up, il est vraiment bon, là.
Ouais, c'est ça, le build-up, il est tellement bien fait qu'à la fin, moi, j'étais satisfait, puis tu sais, j'étais dans la salle de cinéma avec les poings serrés, là, puis comme, yeah, 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 tu deviens comme tellement investi dans le film, puis t'es tout là avec lui, avec le personnage, là. Je trouve ça très, très, très efficace. Mais c'est ça, c'est le troisième acte des films d'horreur, c'est souvent ça qui est difficile. Tu regardes un film, mettons, Babadook, qui avait été le gros, gros succès, le dernier acte était un peu plus sloppy, ça tombait un peu dans le gros spectacle. Je trouvais justement que celui-là, il était un peu moins... il est allé un peu moins loin que le Babadook dans son... on en met plein la vue, là, la poudre aux yeux, là. Mm-hmm. Mais ça, ouais, il y a un layer de plus qui est ajouté, qui ça passe ou ça casse, là, avec certains spectateurs, là. Disons qu'on rentrera pas dans les détails, mais moi ça a bien marché, là. Je suis sorti satisfait de ça, puis grosse recommandation. Ceux qui voient pas beaucoup de films d'horreur, en fait, je trouve que c'est une bonne porte d'accès, parce que c'est pas juste un bon film d'horreur, c'est un bon film tout court.
Ouais, puis vraiment, je pense à voir en salle, t'sais, avant qu'il quitte l'affiche, parce que c'est, t'sais, comme quand il y a des réactions, là, c'est tellement plaisant, justement, de... Puis ça, ce film-là, mettons qu'il avait, t'sais, eu sa première pendant Fantasia, là, ça aurait été sûrement comme une des meilleures expériences de l'année, là. Avec un public, t'sais, aussi participatif, puis aussi comme qui apprécie autant. Parce que là, j'avoue que dans ma séance, puis on est déjà juste, on est dimanche, 2 jours après l'ouverture. Non, ça fait déjà une semaine qu'il est sorti. Bon, la deuxième semaine. Mais il y avait quand même pas beaucoup de gens. Mais quand, t'sais, il y avait une couple de jumpscare, mais vraiment efficace, là. Donc pendant ce temps-là, c'est le fun, genre, d'entendre les gens un peu qui crient nerveusement autour de soi, là. Donc ouais, effectivement, ça, je le recommande tout à fait. Get Out de Jordan Peele. Et puis vraiment, Blumhouse Pictures, c'est ça, je pense que c'est devenu un peu... si t'enlevais leur filmographie, tu sais, de l'horreur récente, il resterait plus grand-chose quand même. Ils sont responsables.
Il y a beaucoup de bons films, là. Ouais. Il y a de la cochonnerie aussi au travers, là, c'est sûr, parce qu'il en produit tellement que... Tu sais, je pense que le Ring, c'était lui aussi, là, la suite. Je l'ai vu en plus... Mais tu sais, il produit les The Purge, des trucs de même, mais vraiment, c'est lui qui overview l'horreur actuelle. Puis même que je suis vraiment content parce que pendant un bon bout, Michael Bay, il produisait tous les remakes de vieux films d'horreur, tu sais, les Texas Chainsaw Massacre, Freddy, Jason. Puis là, ça a l'air d'être Jason Blum parce que tu regardes les films qui s'en viennent. Puis il y a Halloween qui va être, d'après ce qui a été dit, ça va être John Carpenter qui revient à la franchise, qui réaliserait le nouveau Halloween. Ouais, c'est vraiment cool. Puis c'est Jason Blum qui le produit. Puis il y a un nouveau Amityville qui sortirait produit par Jason Blum. Fait que j'ai l'impression qu'il est en train, en plus, de reprendre les franchises. Puis tu sais, il y a du goût au niveau des réalisateurs. Il choisit des bonnes têtes pour prendre la réalisation. Mm-hmm. Un autre exemple aussi, il y avait Ouija là, qui s'est vraiment planté avec le premier. Puis changer de réalisateur pour le deuxième, pis c'est quand même bon, Ouija. Ça reste que c'est un film d'horreur un peu générique, sa deuxième moitié, mais c'était une bonne surprise. Esthétiquement, c'était intéressant. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il revient une vibe un peu plus traditionnelle sur les films d'horreur, ce qui fait du bien, il quitte la grosse machine hollywoodienne. Parce que Get Out, c'est un budget de un petit peu plus que 4 millions. T'sais, pour un film qui finalement en a fait 45-50 millions au box-office. C'est un gros coup, là.
Non, c'est ça. Donc, puis je pense aussi que les réalisateurs aiment travailler avec lui parce qu'il est très permissif. Puis, tu sais, quand tu as fait tes preuves, parce que de toute façon, ça, avec un budget de 4 millions, quand bien même le film avait fait un gros flop, t'as pas perdu tant que ça parce qu'il y a déjà plusieurs succès à son actif. Donc, sa boîte de production, c'est pas pour demain que ça va planter. Donc, voilà, ben, c'était notre point de vue cette semaine. On va se quitter sur la bande-annonce du film Iqaluit de Benoît Pilon qui prend l'affiche ce vendredi 10 mars. C'était notre point de vue. Mon nom est Paul Andriot, j'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette
et Logan.
Tata, c'est quoi le bigger Sroyuna?
Lui manquait. J'avais hâte de rentrer à la maison.
J'arrive pas à partir sans savoir ce qui s'est passé.
He was a good boss. A good guy.
He talked about you a lot. What is this place?
We had a good time here. I thought you would love to see it.
He was almost like family.
Do you want to know what happened to Jill?